Vous êtes sur RTL.
18h50 sur RTL, c'est parti pour le kiosque Thomas.
Le kiosque d'RTL Soir avec Catherine Boulet, Christian Ménanteau et Julia Molcou. Bonsoir à tous les trois.
Salut Thomas.
Bonsoir.
Catherine, aujourd'hui vous vous êtes penchée sur l'édition internationale du New York Times. On trouve aussi la presse internationale dans le kiosque. Et le New York Times fait sa une sur Philippe Martinez.
Ouais, un syndicaliste français de surcroît en une du New York Times. Je ne serais vraiment pas étonnée que ce soit une première, mais pour les journalistes américains, bien c'est mérité, parce que Philippe Martinez, c'est l'homme aux moustaches géantes, je les cite, qui incarne le visage de cette grève depuis presque 2 mois. Et ils lui ont même donné un surnom, à votre avis ?
Mr. Ronchon, non ?
Mr. No, on n'est pas loin. The French President, Mr. No, le monsieur non du président français, le Mr. No qui donnerait des maux de tête même à Emmanuel Macron parce qu'il a réussi à s'élever jusqu'au chef de l'État, à se dresser contre son ambition et à le défier comme dans un duel. Vous voyez, c'est un peu viril.
C'est un peu classe quand même de faire la une du New York Times. Alors, comment ils le décrivent, Mr. No ?
Des sourcils broussailleux, une tête qui dépasse à peine de son duffel coat, sa photo qui s'étale en 4x3 sur les kiosques de la capitale, omniprésent à la télévision et à la radio, et qui marche semaine après semaine à la tête des cortèges. Bref, il est présenté comme un homme assez puissant.
Et sur le fond, il pense que la CGT peut parvenir à faire retirer la réforme, mais je me prends la bouche dans les poils de ma moustache.
Non, en fait, le journaliste, il écrit même noir sur blanc qu'il n'y arrivera pas, Martinez. En fait, il voit en Martinez une sorte de phénix, un homme qui appartenait au monde des morts politiques et qui a utilisé la grève pour ressusciter. C'est ce tour de force-là que saluent aujourd'hui les Américains.
Voilà, à la une du New York Times, donc Philippe Martinez. Sans transition, on parle insectes avec vous, Christian Ménanteau, et plus précisément d'une nouvelle industrie, l'élevage d'insectes, qui est en passe de devenir une spécialité Made in France.
Absolument Thomas. Alors on parle ici de production insectivore et pas entopomophage comme le pensait Julia
d'accord.
au départ.
Donc pour expliquer la différence.
Voilà, la première Julia nourrit les
animaux.
Et la seconde l'homme.
Et ben voilà, concrètement les jeunes entrepreneurs français avec des scientifiques ambitionnent de conquérir les énormes marchés de l'aquaculture et de l'alimentation des animaux de compagnie. Et ces jeunes pousses introduisent maintenant de hautes technologies dans un univers qui est quand même jusqu'ici très traditionnel. Elles font un pari tout à fait intéressant qui est de passer au stade industriel dans les mois qui viennent et bien sûr au-delà dans les années qui viennent.
Cela dit, c'est quand même un pari qui traîne un peu. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ces cultures d'insectes. Ça va vraiment se réaliser de manière industrielle ?
Vous avez raison de souligner le retard à l'allumage, mais l'autorisation vient d'être délivrée. On va pouvoir enfin nourrir les poissons d'élevage avec des insectes, comme de fournir des protéines aux animaux de compagnie. Et vous savez que les Français dépensent plus de 5 milliards d'euros par an uniquement pour nourrir leurs chats et leurs chiens. Donc tout cela alimente bien évidemment de grandes ambitions et l'une d'entre elles, de ces jeunes entreprises InnovaFeed, prépare ainsi l'implantation du plus grand site de production au monde de farine protéinée, ça sera en Picardie, il y en a beaucoup d'autres qui sont dans le sillon, c'est là qu'on triture la mouche soldat noir, le ver de farine ou le grillon, tout cela est encouragé par les pouvoirs publics, par l'Europe aussi, on espère la valorisation de déchets organiques et puis de bonnes bases pour une économie circulaire.
C'est très bon le grillon grillé, c'est un petit goût de noisette.
Non, il faut mettre du thym dessus.
Il y a un marché solvable pour ces aliments à base d'insectes ?
Alors potentiellement, il est bien sûr gigantesque. Songez simplement aux besoins de l'aquaculture et de l'élevage. Mais concrètement, il faut bien reconnaître qu'il est toujours embryonnaire. Mais il y a aujourd'hui des géants comme le français Suez ou Veolia, des poissonneries norvégiennes, des fonds souverains de Singapour, de Hong Kong ou un mastodonte comme l'américain Cargill qui se sont financièrement positionnés sur nos start-up, sur ces jeunes boîtes françaises. Ouais. C'est un signe fort. Vous voyez, il y a un futur business XXL.
Peut-être qu'on grignotera des insectes devant la télé ce soir. Ce qui est sûr, Julia, c'est que vous nous mettez devant la télé et vous nous dites de ne pas rater un documentaire qui sera diffusé à 21h sur France 3 et c'est Les vies d'Albert Camus.
Oui, Albert Camus est mort le 4 janvier 1960 et à l'occasion de ce 60e et triste anniversaire, le réalisateur Georges-Marc Benamou nous propose un film exceptionnel sur ce héros français foudroyé à 46 ans. L'auteur de L'étranger, l'un des romans les plus lus au monde, l'homme engagé, le courageux, le visionnaire, l'homme amoureux aussi, le journaliste, le résistant, celui qui était aussi à la tête du journal Combat, qui tenait les gens informés des actions de la résistance et des représailles de l'ennemi. Tout ceci et bien plus encore, c'est dans ce film et c'est raconté par l'acteur Philippe Torreton. Extrait.
La libération de Paris, Camus va la vivre aux avant-postes. Du 19 au 24 août 1944, les combats redoublent dans la capitale. Le danger aussi pour les hommes de combat clandestins, qui les armes à la main, s'emparent des journaux collaborationnistes sur la rive droite de Paris.
Il a fallu 5 années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cela ne peut s'écrire sans émotion.
L'histoire d'Albert Camus est extraordinaire, pourtant elle commençait très mal. Il naît dans un quartier pauvre d'Alger, son père est mort sur le front lors de la Première Guerre mondiale, sa mère est sourde et illettrée, et lui, il est tuberculeux. Ça aurait pu être du Zola, mais c'est du Camus. Et c'est grâce à un instituteur et au football, oui, au football, qu'il va réussir de dévier de cette trajectoire qui semblait pourtant toute tracée. La suite, on la connaît, ce sont ses engagements, notamment pour une égalité avec les Arabes et les Kabyles, avec les Français d'Algérie, ses amitiés, ses inimitiés avec Sartre et Beauvoir. C'est aussi le prix Nobel qu'il reçoit en 57 alors qu'il pense qu'il ne lui revient pas, qu'il était pour Malraux. Et puis les femmes, bien sûr, parce que Camus, c'est un homme à femmes, à l'image de l'histoire d'amour incroyable qu'il a eue avec Maria Cazares, une très belle et grande actrice. D'ailleurs, ils se sont échangés plus de 800 lettres qui viennent de paraître chez Folio. Je vous les recommande, ça donne envie de tomber follement amoureux. Et ce soir, croyez-moi, vous ne ratez pas la diffusion des Vies d'Albert Camus sur France 3 à 21h.
C'est vrai. Ça me refait penser à Estelle Lefébure. Pardon, excusez-moi. Ce soir sur France 3 à 21h. Merci à tous les trois et à demain. Un petit pastille pour la gorge quand même. Faites pas trop souffrir vos cordes vocales.
Merci Thomas.
Merci Julien.
Chez Storiste de France.